Bien, alors, équinoxe du 20 mars. L'équinoxe de printemps du 20 mars aura-t-elle une influence sur nous et sur le monde? Car certaines personnes, notamment dans le milieu de l'astrologie sidérale, redoutent un peu cette date. Eh bien, l'article, il paraît demain. Donc, je ne vais pas m'éterniser à ce niveau-là. Attendez, je vois qu'il y a une autre question. Ouais, bon, ça, c'est, on verra. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dedans, mais dites-vous bien qu'il y a quelque chose, effectivement, de fondamental qui va se passer lors de cette éclipse et qui a déjà commencé, en fait, hein, depuis, on va dire, la dernière pleine nuit. Hein, il y a déjà quelque chose et ça va amener énormément. Je vous rappelle que j'avais dit que 2015, ça allait se couler. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi ces astrologues flippent un peu. Parce que, effectivement, on va dire le printemps, hein, c'est-à-dire ce qui va suivre, hein, puisque c'est l'équinoxe, le 20, donc après c'est le printemps officiellement, eh bien, il va se passer effectivement beaucoup de choses qui vont remuer énormément, énormément, parce que, comme dirait l'autre, si on veut que la 3D bouge, enfin que les dormeurs de la 3D bougent, il faut leur mettre quelques coups de boutoir sur la porte d'entrée. Hein? D'accord? Donc ça promet énormément. Et donc j'écris un petit article là-dessus pour demain. Donc je ne vais pas m'éterniser, mais sachez qu'il y a eu des modifications par rapport au futur. Enfin, je veux dire des aménagements. Et vous lirez ça demain, je vais pas répéter tout ça. Maintenant, d'autres questions diverses. Une question de Vincent. Si tu avais à dire quelque chose à tes détracteurs, ce serait quoi? Vous savez, détracteur, moi c'est un truc au pluriel, parce que je dis intracteur. D'accord? Donc, qui dit intracteur dit quelque chose d'agricole, dit quelque chose de lourd, dit quelque chose avec des gros trompons, dit quelque chose qui pollue, et dit quelque chose qui laboure, qui coupe, qui... enfin bref, généralement, rarement quelque chose de constructif. Donc quand c'est un détracteur, hein, c'est-à-dire un groupe, même si c'est qu'une seule personne, comprenez l'analogie, eh bien c'est quelqu'un qui va chercher, par une méthode absolument involuante, de dire je vais démolir l'autre parce que je suis pas d'accord avec. Pourquoi? Parce qu'il m'emmerde. Parce que ce qu'il dit me dérange. Donc, en bon aveuglement, en bon prédateur, je vais attaquer. Parce que je ne vois pas comment je vais pouvoir faire. Si je l'attaque pas, je suis emmerdé. Donc, un détracteur, c'est quelqu'un qui déjà a un problème. C'est-à-dire qu'il va avoir une réaction d'abord involuante, qui va se dire, ouais, mais moi je suis pas d'accord, parce que si, parce que un tel a dit ça, et je vais t'envoyer les références, et tu vas voir. Donc c'est quelqu'un qui va chercher à argumenter pour dire quoi? Qu'il a raison et que toi t'as tort. Donc déjà, quand il y a un détracteur, eh bien, on se dit, ah, il y en a encore, hein, mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours, car normalement, d'une certaine manière, nous sommes encadrés et quand on sera encadré, il n'y aura plus de détracteurs. Il n'y aura plus de détracteurs. Pourquoi? Parce que ça sera le respect total. Et donc le respect total dira, voilà, la personne dira avec un respect profond, il y a en toi une partie du son-nom, comme en moi, je respecte parce que c'est l'expression de ce qu'il est et de ce qu'il veut vivre. Et donc si nous sommes éventuellement en opposition de point de vue, je le respecte tellement que je n'ai rien à dire à propos de ça. Dites-vous bien que ce qui a fait que l'Atlantide coule, ça a été les détracteurs. Ça a été les gens qui disaient, moi je suis pas d'accord. Et ça, partie de la prochaine vidéo aussi, hein, mais il y a, dans les vidéos que je vous amène là, bientôt, là, vous allez avoir un paquet d'informations et vous allez voir que, bon, peut-être les choses s'éclairciront pour certaines personnes et même pour d'autres, ça va être totalement l'inverse. C'est pas grave. Chacun prend ce dont il a besoin et ce qu'il peut comprendre par rapport à ce qu'il est. Et donc, les détracteurs, il y en aura toujours. Tant que nous serons dans ce monde de dualité de 3D, 4D, il y aura toujours des gens qui se mettront en opposition en face de vous. Et c'est normal. On ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que c'est un monde de dualité. Et donc, Les gens qui passeront en 5 décisés, ce seront les gens qui se seront équilibrés, qui comprendront qu'il n'y a ni partie supérieure à une autre, que la partie noire n'est pas supérieure ou inférieure à la partie blanche. Donc ils seront en paix. Donc généralement, quand vous êtes à un certain niveau, on va dire, de fréquence, eh bien les détracteurs, vous souriez, vous les regardez, et à la rigueur, vous n'argumentez plus. Parce que des fois, ça peut aider d'argumenter un petit peu pour les pousser un petit peu dans leur retranchement et qu'ils réalisent peut-être qu'ils sont en train de se battre contre une partie d'eux-mêmes. Les autres personnes qui sont en face de vous sont des miroirs, on est d'accord. Mais regardez, c'est qui attaque. Parce que bien sûr, un miroir, moi, Laurent Duro, je regarde l'autre en face qui me raconte des conneries, que je considère comme des conneries, donc il est mon miroir, donc la connerie est en moi. Ok, d'accord. Mais l'autre aussi, il peut dire la même chose. Il dit, attendez, moi, là-bas, Dupont, je regarde Laurent Duro, qui est mon miroir, et donc je vois en lui les conneries qui sont en moi. Donc ouais, d'accord, très bien. Et donc, quand c'est fait en respect total de l'un l'autre, le ton reste neutre, il n'y a pas de jugement, et on se dit c'est. Et donc, comme ça, l'autre nous permet d'être un miroir. Et on se dit bien, parce que si j'ai réagi à quelque chose qu'il a dit, c'est que c'est en moi. Donc c'est bien un miroir. Mais c'est la façon de réagir qui va faire la différence. S'il y en a un, il reste dans son respect et dans sa paix, il va dire à l'autre merci. Et donc si tu as un involuant en face de toi, un côté masculin qui est dans sa logique, son truc et sa raison, et tous ces trucs, tu dis merci, il me renvoie quelque chose, intéressant. Intéressant parce que ben, peut-être que j'ai pas expliqué correctement, peut-être que les mots que j'ai utilisés n'étaient pas les meilleurs, peut-être que simplement dans ce que j'ai dit, ça l'a choqué quelque part, émotionnellement. J'ai fait sauter un cadenas d'un programme involant, et paf, il me renvoie dans les dents. Bon, d'accord. Très bien, comme ça je prendrai connaissance de son programme involant. Donc c'est toujours positif, et donc un involant vous apprendra toujours quelque chose, toujours. Parce qu'ils sont là pour ça. C'est pour ça qu'ils sont nos maîtres, d'une certaine manière. Arrive un moment, l'élève doit dépasser le maître. Et comment un élève dépasse le maître? En étant un maître lui-même. Donc, quand quelqu'un attaque, vous dites, ah, là, il a décidé de passer à l'action, parce qu'il n'en tient plus. Il tient plus. Il n'a plus la notion de... Enfin, il n'a pas encore peut-être la notion de respect, donc il attaque. Et donc pour lui, c'est une meilleure, il est dit d'ailleurs, hein, la meilleure technique de défense, c'est l'attaque. Et une attaque est basée sur une peur. Donc quand quelqu'un vient à dire des choses de travers sur moi, ou parce que je dis, ou parce que je suis, ou n'importe quoi, eh bien c'est qu'en fait, il a une peur qui s'exprime, donc on a le droit de le laisser s'exprimer. Mais arrivé à un moment, vous dites, bon, on fait quoi avec ce qu'il vient de me dire? Est-ce que c'est pour se décharger? Est-ce que c'est pour, régler un problème qu'il a vécu? Et si vous êtes en 5D6D, ça veut dire que vous avez équilibré la dualité qui est en vous. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez sourire. Et vous allez accueillir ce qu'il va vous dire. Gentiment. Et puis, si vous donnez aucune réponse, ça va l'affoler un petit peu. Il va se dire, mais il me considère pas, il me prend comme une merde, il n'ose même pas me répondre. Donc, c'est un programme involant. Donc, là, on va dire, bah ouais, d'accord, je comprends ce que tu me dis, je vais regarder la chose, je vais voir, merci. Et vous repartez plein de gratitude, et l'autre, il comprend plus, quoi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là, j'ai attaqué, c'était pour qu'il change d'avis, parce que, voilà. Et il change pas d'avis, il m'a dit qu'il était content. Voilà. Et donc, c'est ça la différence entre les gens qui sont encore coincés dans une 3D 4D avec un raisonnement de pure dualité, de celui qui est sur la voie de l'épanouissement, et de la voie, on va dire, de l'immortalité, et pour devenir maître ascensionné, et donc Christ plus tard. C'est-à-dire Christ, et vous le verrez, c'est l'acceptation, et de toutes les parties de vous-même à 100%. Voilà, c'est-à-dire vous avez recollé tous les morceaux, le masculin et le féminin, parfaitement. Une question d'Agora 1971. Les enfants peuvent-ils boire de l'eau encodée? Oui. Même le chat, même le chien, même les plantes, même la salade qui commence à faner. Tout le monde peut effectivement boire de l'eau encodée. Donc là, juste une recommandation, c'est que si votre eau encodée est montée assez haut en fréquence, en énergie, faut pas passer du tout au rien, quoi. Hein, c'est-à-dire de l'eau du robinet à tout de suite l'eau encodée et uniquement de l'eau encodée, parce que là peut-être que le gamin il va sentir la nuance. Hein. Quand c'est les animaux, c'est pas le problème parce que eux ils sont connectés, donc ils sauront prendre la dose qu'il leur faut dans les débuts. Mais un gamin ne l'aura pas forcément. Donc soyez simplement conscient qu'on ne peut pas donner d'une manière brutale, on va dire, de l'eau encodée à quelqu'un, surtout s'il n'en a jamais bu, et d'une manière permanente. Donc il faut y aller gentiment, tranquillos, et puis vous laissez faire. Mais je vois pas pourquoi on interdirait de l'eau encodée à des gamins. Je dirais bien au contraire, il faudrait même favoriser la chose. Parce qu'ils sont pas encore encrassés, on va dire, autant que les adultes. Et ils n'ont pas d'acquis cellulaire à ce niveau-là. Bon, alors, je vois une question de Françoise 23. Si cette année, tout ce qui est caché doit remonter à la surface, aller nettoyer ses mémoires anciennes peut éviter que ça nous pète à la figure. Alors, il n'y a rien à nettoyer en termes de mémoire. Tout ça, ce sont encore des programmes du New Age, de programmes de thérapeutes, de programmes. Les choses vont se faire beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Parce que, au lieu de dire je vais soigner un bobo parce que j'ai bobo, ça c'est une vision, on va dire, très 3D, hein. Eh bien, augmentez simplement votre fréquence. Et plus vous allez augmenter votre fréquence, et plus automatiquement ces choses-là vont passer en arrière-plan. Vont passer en arrière-plan. Donc, moi je vais pas chercher mes mémoires, je vais pas chercher à les nettoyer, je vais pas chercher à débloquer des nœuds émotionnels, je vais voir aucun thérapeute, comme aucun tout d'ailleurs, rien. Il n'y a pas besoin de tous ces gens-là me concernant. Mais pour vous, c'est que si vous vous dites non, non, j'ai encore besoin de quelqu'un de l'extérieur pour me donner un coup de main parce que je ne me sens pas capable, faites-le. Mais sachez que c'est pas une solution viable éternellement. C'est pas quelque chose de dire à chaque fois que je veux faire avancer, je vais faire appel à quelqu'un d'extérieur. Et dites-vous bien que nous nous l'ont bien dit, à moi et Corinne, montez en fréquence, montez en fréquence, montez en fréquence, parce qu'il y a certains programmes que vous ne pourrez jamais désosser, et que c'est seulement la montée en fréquence qui va faire que ça va plus vous toucher. Donc si par exemple vous êtes au fond de la cuve et que vous êtes en prise avec une densité lourde, eh bien en montant en fréquence, vous allez vous retrouver à la surface, et donc vous ne serez plus dans la densité lourde. Donc vous aurez réglé un certain nombre de problèmes, en étant plus sur cette fréquence. C'est-à-dire, c'est comme si je prenais au niveau de la radio, vous êtes sur les bandes AM et vous passez en FM. Résultat, vous n'avez pas à dire il faut que je nettoie la bande AM avec toutes les conneries, toutes les emmerdes et tous les trucs. Vous passez en FM, vous tournez le bouton en fréquence, pom, 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 et vous passez sur d'autres gammes de fréquences. Terminé. Et donc, nous, notre principale marge de progression se fait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête avec des blocages, des trucs et des machins. Non. On monte en fréquence et on nous dit ne baissez jamais votre fréquence. Donc ça veut dire que s'il y a un détracteur qui vient et qui veut me rentrer dans le là, il peut me rentrer dans le là et je regarderai en disant de toute façon mets-toi pas à son niveau parce que tu vas devenir identique à lui. Donc si tu as le droit à un tracteur, à un détracteur qui est de bonne grosse 3D, si toi t'es en 5D, bah tu vas retomber à la 3D, puis tu auras rien gagné au truc. Hein. Donc, si le poisson au fond de la cuve à fioul, il t'envoie des bulles de merde, bah tu dis c'est pas un problème. Ça le dégaze déjà dans un premier temps, mais tu restes dans les vapeurs en haut, quoi. Hein. Tu vas pas dire attends, faut que je replonge, que je joue une baffe. Non, tu restes dans tes fréquences. Donc ça c'est quelque chose de difficile à faire dans les débuts parce que nous avons des programmes qui sont faits pour qu'on soit réactif. C'est-à-dire, oh, il me fout une bof, je lui balance une bof. Non, il me fout une bof, ok. Il a foutu une bof, ok, très bien, maintenant ce que je fais quoi là? Je continue son jeu? jusqu'à temps qu'on soit à se rouler par terre et à se cogner pour que les flics nous séparent ensuite. Ou je dis ok, très bien. On penche un peu la tête en se disant ah bah oui, t'es plus fort. Oui, t'as raison, c'est vrai. T'as raison par rapport à tes croyances, par rapport à ce que tu es, et par rapport à ce que tu penses. Oui, t'as raison. De mon côté, ça t'intéresse pas, puisque de toute façon, tu comprendrais pas ce que je vais dire. Donc. D'accord, hein, je crois qu'il y a une fameuse parabole par rapport à ça. Donc, toujours une question de Françoise 23, comment soignez-vous les EDLN? Alors là, je vais pas te le dire dans le sens qu'il y a plein de techniques différentes. D'abord, dans un premier temps, et il y a des aides. C'est-à-dire que nous pouvons faire certaines choses, on va dire tout seul, mais des fois, nous nous servons de d'autres entités qui ont des capacités. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme des instruments. Donc, nous avons, par exemple, plusieurs entités cristallines qui ont des capacités d'amplification. Donc, quand nous devons, par exemple, soigner une plaie ou une chose comme ça, eh bien, nous servons de ces entités cristallines qui sont bien sûr dans un cristal, de telle manière qu'elles amplifient l'énergie ou l'information que nous donnons afin de faire que ça soit plus efficace. Donc il y a plein de choses. Donc c'est comme si tu me dis comment qu'on fait pour devenir infirmière. Ça va pas se faire en 10 minutes et au coin d'un micro quoi. C'est il faut apprendre beaucoup de choses et c'est pas transmissible comme ça, je veux dire en 3 minutes. Une question, Brigitte, pourquoi les cheveux blancs connectent moins? Non, c'est que généralement, quand on a les cheveux blancs, on en a moins. C'est tout. Et quand quelqu'un a encore les cheveux noirs, ça veut dire qu'il est dans l'âge. Ou il a encore des cheveux. Hein? Moi, j'étais déjà chauve avant qu'il devienne blanc. Donc, voilà, c'était juste pour dire ça comme ça. Mais un cheveu, c'est un cheveu. Qu'il soit blanc ou noir. Bien, alors, maintenant on revient à une question d'Isabelle. Actuellement, je vis dans un pays où l'eau n'est pas potable, même bouillie. Je fais tremper les fruits et légumes dans de l'eau potable encodée, la même que celle que je bois. La question est, si j'utilise une eau pleine de métaux lourds, les fruits et les légumes ne vont-ils pas se charger de ces métaux malgré l'encodage ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau encodée peut bien sûr faire un certain nombre de choses. Mais ça va quand même pas vous transformer, on va dire, une eau, comme tu dis, avec des métaux lourds, parce que le programme d'encodage reste de l'information, et il n'est pas là pour, on va dire, dissoudre ou exterminer les métaux lourds. Il y a quand même des limites. Donc, ce que j'ai remarqué, par exemple, quand il y a de l'eau qui est chlorée, eh bien, le chlore va être évacué plus facilement. Mais le chlore va s'évaporer. Mais l'encodage ne va pas détruire le chlore. Donc, si tu as des métaux lourds dans l'eau, si tu le fais encoder, l'eau va monter certes en puissance, mais l'élément chimique qui est le métaux lourd va rester. Il sera là. Voilà quoi. Donc là, il faut passer par des moyens, on va dire, mécaniques, hein, c'est-à-dire des filtres ou des choses comme ça, pour arrêter ces métaux lourds. Mais l'encodage ne supprimera pas les métaux lourds. Il va supprimer, on va dire, une partie de l'information qu'il y a dans l'eau, mais pas les métaux lourds. Toi, utilises-tu l'eau pleine de fluor et autres produits toxiques en France pour ce nettoyage? Alors, moi, j'utilise l'eau du robinet, simplement. Derrière l'eau du robinet, il y a une série de filtres. Alors, il y a les filtres... maintenant, on va dire, moi, je bois de l'eau osmosée, donc ce qui veut dire que tout ce qui a été bactéries, terre, métaux lourds, pesticides, insecticides, chlore, tout ça, ça a dégagé dans les filtres. C'est une manière, on va dire, mécanique, qui permet de séparer ça. Donc, effectivement, c'est de l'eau du robinet, mais si je prenais l'eau de la mare d'à côté, ou l'eau du puits, ou l'eau de comme ça, elle passerait à travers tous ces traitements mécaniques pour pouvoir être ensuite, on va dire, encodée correctement. faut pas mélanger toutes les choses quand même. Hein, si l'eau encodée pouvait bouffer quasiment les atomes, ça se saurait quand même, parce que tout simplement la première chose qu'il ferait, c'est que si tu mettais l'eau dans un verre en plastique, le verre en plastique se dissolverait et se dégraderait. Donc non, ça, faut pas confondre l'information, hein, parce que l'eau encodée, c'est surtout une information qui vient nettoyer dans les différentes mémoires de l'eau, mais il ne joue pas sur la matière elle-même. Alors, une question de Jean-Phi. Peut-on comparer l'évolution de Urantia-Gaïa à Urantia-Gaïa-Eléa au phénomène de physique quantique appelé scintillation, passage à un niveau énergétique supérieur, où une même particule peut vibrer sur deux fréquences différentes? Si cela est exact, peut-on étendre cette explication aux planètes couveuses, et notre bonne vieille planète étendrait ses vibrations sur une dizaine de fréquences différentes? Alors, l'idée est intéressante, hein, je dirais que on touche un élément de vérité, mais il y a d'autres éléments aussi qui interviennent. Donc, pose-toi déjà la question, ce phénomène de scintillation, eh bien, quand tu regardes le moteur de la Terre, 1D, 2D, tu regardes le moteur de l'humain, 3D, 4D, tu regardes le moteur du ciel, 5D, 6D, eh bien là, tu vois que tout simplement, hein, donc ça correspond au fameux corps, âme, esprit, eh bien tu regardes que tout simplement, eh bien ce phénomène de scintillation va correspondre à des moteurs. C'est-à-dire que nous vivons bien actuellement dans un monde de 3D, 4D. Et il y a bien une transition du monde de 3D vers la 4D. Donc ce qui veut dire que tout simplement, il y a aujourd'hui, comme si je prends l'exemple comme ça, eh bien à partir d'une planète, eh bien, tu en as deux virtuelles. Tu en as une qui est en 3D, tu en as une qui est en 4D, tu en as une qui est masculine, tu en as une qui est féminine. Et donc, progressivement, à fur et à mesure que cette scintillation va augmenter, eh bien, tu vas avoir le monde de 3D qui va se densifier de plus en plus, et densifier dans le sens qui va devenir de plus en plus 3D pour en mourir, alors que celle de 4D, ça va devenir de plus en plus vibratoire. Et donc, une fois que le monde vibratoire sera monté à son maximum, eh bien, l'humanité passera dans l'autre moteur, c'est-à-dire 5D, 6D. Donc l'aspect Eléa est un aspect, on va dire, identique, mais à un niveau très largement supérieur par rapport à la planète. Hein? Ça aussi, ça sera expliqué dans les prochaines vidéos à venir, parce que tout se tient, mais il faut me laisser le temps d'écrire et de faire une vidéo. Hein? Alors, une question de David sur le SDH. Alors, une question par rapport au design humain. Est-ce que les règles du SDH s'appliquent toujours en 4D? Par exemple, est-on toujours projecteur? Est-ce que la stratégie associée à celui-ci s'applique-t-elle aussi? Est-ce que le chemin donné par la croix d'incarnation est aussi valable en 4D? Car dans mon cas, en tout cas, elle me semble plus que jamais valable. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, bon, c'est pas mes enseignements directs, mais une chose est claire. C'est que le design humain, il y a déjà la version 3D. Ça, c'est la version officielle. Ensuite, il y a une version 4D. Qui commence à avoir des nuances importantes par rapport à la 3D. Et ensuite, il y a la version, on va dire, 5D et plus. Donc, quand on parle du SH, il faut savoir duquel on parle, par rapport à quelle dimension. Cependant, pour répondre à ta question, il faut comprendre que le SDH, c'est un peu ton circuit, on va dire énergétique, grosso modo, de ton corps physique actuel. Et donc, ta voiture, si c'est une 4L, elle restera 4L. Parce que, jusqu'à maintenant, les gens qui ne sont pas au courant, on va dire, qui sont dans une 4L, connaissent pas le mode d'emploi, ils font tout et n'importe quoi dans la caisse. Mais si tu suis exactement ton schéma, eh bien, toutes ces pièces rapprochées, qu'on appelle le non-soi principalement, vont disparaître, et donc tu vas redevenir une belle 4L, mais tu resteras une 4L. Et ceci, quelle que soit la dimension dans laquelle tu vas être. Car si tu veux changer ton SDH, il faut changer de corps humain, de corps physique. Donc ça veut dire qu'il faut que tu renaisses dans un autre corps. Donc si tu es projecteur, tu resteras projecteur. Si tu as une croix d'incarnation, ça sera toujours la même. Et ceci, quelles que soient les dimensions dans lesquelles tu iras, par rapport à ce corps. C'est un véhicule. Donc le SDH, c'est simplement le mode d'emploi du véhicule avec tout le manuel technique. Donc il est clair que si tu connais ce manuel, eh bien tu vas avoir à ce moment-là plus de possibilités de d'être en accord total et en harmonie avec ton véhicule. Parce que si tu as une 4L, tu vas pas forcément t'en servir, excuse-moi, comme 4x4 ou comme tracteur. Ou dire je vais faire de la course de vitesse sur le circuit, je vais faire du rallye. Du rallye rapide, hein. Je ne parle pas un rallye, on va traverser le Sahara à sa vitesse. Hein. Un rallye. Chaque corps humain est unique dans son expression, et c'est donc ton lieu, date de naissance, lieu, date et heure de naissance qui font que tu es unique. Voilà. Dans ce corps, unique dans ce corps par rapport au corps énergétique, car une même personne née au même endroit, c'est-à-dire par exemple, tu es dans une maternité, dans une grande ville, eh bien tu peux avoir trois naissances qui se font à 10 secondes d'écart, ou même pratiquement à la seconde même. Eh bien, ils auront tous les trois le même programme, sauf que l'ADN ne sera pas forcément le même, puisqu'il y en a un, par exemple, c'est un petit petit asiatique, l'autre c'est la couleur africaine, et puis l'autre c'est la couleur européenne, par exemple, blanche, on va dire. Donc le résultat, c'est qu'eux, ils vont hériter d'un certain nombre de bagages de leurs parents, mais par contre, le bagage du circuit qu'ils vont suivre, c'est-à-dire celui du SDH, sera identique. Donc, il faut comprendre que le SDH te donne ton numéro de série, quand c'était sorti et quelles options. Et donc c'est comme ça que maman Rantia peut savoir quelles sont toutes les incarnations qui se font afin que ça réponde à tous les besoins de la planète et de l'humanité. Car je signale que la planète tourne, il y a des naissances en permanence. Donc c'est un renouvellement des cellules de l'humanité. Et donc c'est pour ça qu'elles sont toutes différentes. Mais tu peux avoir une cellule du foie qui naît au même moment qu'une cellule d'un rein ou de l'épaule. Ils ont dit, elles ont même les âges. Oui, mais elles sont pas même, physiquement, ils n'ont pas la même fonction, le même rôle. Mais ils ont reçu la même information. Et c'est pour ça que tous les enfants qui naissent aujourd'hui vont avoir des informations qui sont autrement plus vibratoires que ceux qui sont nés il y a 20 ans. Ceux qui sont nés encore... Vous savez, ceux qui sont nés juste après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont nés dans une ambiance vibratoire de l'humanité qui n'a rien à voir avec l'ambiance aujourd'hui. Donc, les capacités des gamins ne sont pas les mêmes. Bien. Alors, une question de Marie-Claude, 13. Ma question concerne le sort des 10 victimes suite à la collision des deux hélicoptères le dimanche en Argentine. Reprenant tes éclaircissements suite à une question sur le sujet de la dernière webconf, passé les 3 jours, ils se sont donc réveillés sur une des planètes. Peut-être la 6e. Ont-ils été triés et séparés ou sont-ils encore ensemble, tout en ayant gardé la mémoire de cette dernière incarnation et donc de l'accident? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je suis pas partout à la fois. Alors, déjà la première chose, peut-être en 6e, la réponse sera probablement non. Je dis probablement, parce que aujourd'hui, les gens qui iront sur la 6e planète sont déjà des gens qui, on va dire, ont déjà mis sérieusement les pieds dans la 4D, pour pas dire la 4D+. Donc, s'ils ont été en 3D, voire 3D+, je peux dire sincèrement qu'ils seront pas en 6e, mais qu'ils seront, on va dire, 4e, 5e. Donc, aujourd'hui, on va dire que l'humanité, ceux qui iront en 6e, par rapport à, on va dire, il y a 2 ans, hein, je vais remettre les stats un peu à jour, mais il y a 2 ans de ça, on va dire que quelques milliers d'individus auraient été en 6e. Voilà, sur les 7 milliards. Donc ça fait pas beaucoup. Ceux qui allaient, on va dire, de la 6e à la 8-9e sont les intraterrestres. Ah oui, c'est quand même dingue. Hein. Donc, il y a encore beaucoup de travail, même pour nos frères de l'intra-terre, parce que je vous rappelle qu'ils sont dans la même prison que nous. Hein. Donc eux, ils se sont retirés dans l'intra-terre pour continuer leur évolution, donc ils sont dans des dimensions supérieures à la nôtre, on est d'accord, mais n'empêche qu'ils sont dans la même prison que nous. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils vont aussi mettre un petit peu le nez dehors, mais On verra le futur, ce que ça nous racontera, et je vous avouerai une chose, c'est que vaut mieux devenir un maître ascensionné, voire un Christ, comme ça on n'aura pas besoin de passer par les 10 planètes. Bon, maintenant, c'est qu'une histoire de temps. Et donc, qui dit histoire de temps, dit à quelle vitesse vous voulez courir. Et on sait que pour courir vite, il faut lâcher prise sur toutes vos croyances, sur tout ce qui vous retient. Mais bon, on n'a pas dit qu'il fallait faire ça pour demain. Hein. La 4D, ça va durer un certain temps. Donc il est évident que si statistiquement il vous reste 5 ans à vivre, bon, va falloir, là ça va être difficile. S'il vous reste 20 ans à vivre, bon, bah pourquoi pas. S'il vous reste 50 ans à vivre, enfin, par rapport à la moyenne, on va dire, statistique globale, là vous avez toutes vos chances. Donc, ça dépend de chacun, ça dépend de beaucoup de choses. C'est nous qui faisons la route. Hein? Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont rester ensemble? Pourquoi? Parce que je savais même pas qu'il y avait eu des victimes, mais de toute façon, je m'en fous. Le truc, c'est pas parce qu'ils se font dans le même hélicoptère et qu'ils meurent en même temps, qu'ils vont se retrouver en même temps, sur le même endroit, sur la même planète, parce qu'ils ont le même niveau. Ça veut rien dire. T'en auras peut-être deux qui iront dans la planète 3, deux autres dans la planète 4, et puis un dans la planète 5. Enfin bon, donc c'est, puis ça veut pas dire, parce qu'il y a des sous-continents, je vous signale. Hein. Donc c'est un peu, on va dire, comme à l'image, on va dire, des chakras. Hein. Ça, c'était des explications qui ont été données il y a un certain temps. C'est que quand vous allez sur une planète, vous avez 6 continents. Ça veut dire que si vous arrivez en planète, par exemple, 3, ben vous avez la 3-1, la 3-2, la 3-3, la 3-4, la 3-5 et la 3-6. Donc si vous arrivez en 3-3, et ben vous allez démarrer à cet endroit-là, et puis après ben vous passerez en 3-4, et puis après en 3-5, et puis après en 3-6. Et une fois que vous êtes arrivé en 3-6, ben hop, vous passerez à la 4-1, et ainsi de suite. Donc voilà, bon, ça c'était des informations qui ont été données. Voilà. Une question de Panda. Est-ce que la comète Ison, selon les dires des astronautes, est une comète? Y a-t-il une relation entre le passage de la comète Ison et le 18 janvier 2014? Alors là, je peux pas répondre, parce que, un, d'abord, moi je suis pas un astrophysicien, donc comète ou pas comète, rien à faire. Ça m'intéresse pas. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que là où il y a une partie dense, ça veut dire qu'il y a une partie éthérée. Donc, en gros, à chaque fois qu'il y a une comète ou ce que vous voulez, ce sont en fait des entités qui viennent nous voir. Donc nous percevons un bout de matière par rapport à notre dimension, par rapport à la 3D, enfin à la 1D, on voit de la matière, oh il y a de la matière, si elle nous percute, ça va faire quoi, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette matière, c'est pas juste matière, toute matière est habitée. Donc, résultat, c'est tout simplement un messager qui est venu distribuer un certain nombre d'informations sur tout le parcours qu'il a eu à faire. Donc, il a distribué de sa vibration. Donc, faut savoir que toutes ces choses-là, hein, on va dire comètes principalement, sont des entités qui viennent apporter des informations au système solaire qu'il visite. Et donc, quand il frôle des planètes, c'est parce que bah il s'approche, et pour refiler encore plus d'infos. Donc nous voyons la matière, mais pour les gens qui sont suffisamment sensibles, eh bien ils peuvent voir aussi les différentes strates énergétiques, mais surtout ils pourraient tout simplement discuter avec l'entité qui vient voir. Moi j'ai jamais eu l'occasion de me pencher et dire ah tiens, il y a une comète qui vient, tiens, on va essayer de lui causer. C'est un autre niveau, mais il faut être conscient que ce sont des entités qui nous visitent. Alors, est-ce qu'il y a eu un rapport avec le 18 janvier 2014 je n'en sais rien du tout. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Je dirais qu'il peut y avoir certains éléments qui s'ajoutent les uns aux autres. D'accord ? C'est-à-dire que cet élément seul a certainement pas été suffisant pour que ça se passe, mais a peut-être influencé. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. D'ailleurs, je sais même pas où elle était ce jour-là, d'ailleurs. Donc, je sais pas. Mais elle a peut-être effectivement favorisé cette ouverture. Une question de Pierre sur la météo. Tu nous avais dit durant l'automne 2014 de mémoire que tu avais obtenu certaines informations qui indiquaient que l'hiver serait particulièrement froid. Or, il n'en a rien été. Quelque chose a-t-il changé entre-temps ? Je souris. Quand j'ai dit effectivement qu'il allait y avoir un hiver froid, est-ce que j'ai précisé que c'était simplement sur la France et pas ailleurs ? Non. Alors maintenant, regardons. Toute l'Amérique du Nord, là, cet hiver, là, l'Amérique du Nord, là, il s'est passé quelque chose du côté de chez eux, là. Hein, parce que pour qu'il y ait du moins de 30 degrés à New York, c'est quand même que ça a caillé dur. Regardons sur l'Europe. Regardons quelles sont les vagues de froid qui ont débarqué du côté de l'Angleterre, mais aussi dans dans l'Europe centrale. Regardez dans l'Europe centrale, combien s'en sont ramassés, quelque chose qu'ils n'étaient absolument pas habitués. Et regardez, par exemple, j'ai vu une vidéo de l'audio marrante, Arabie Saoudite, il neige. C'est sûr que les chameaux, ils n'avaient jamais vu ça. Hein. Donc, quand il y a des prévisions qui sont données comme ça, comprenez bien la question et prenez du recul. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des grosses vagues de froid qui ont été absolument inhabituelles. Et donc, on va prendre particulièrement, on va dire, l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est les effets gelés sérieux, quoi. Et je parle pas de l'Europe centrale, où aussi ils ont vu des trucs, ils ont pas compris ce qui s'est passé, quoi. Donc, regardez ce qui s'est passé aussi du côté de la Russie. Alors, ils sont habitués à avoir du moins 20, moins 25, mais ça a quand même descendu vachement bas, quand même. Hein. Donc, soyons, entre guillemets, je dirais, heureux que nous, là, en France, on s'en est pas trop ramassé, quoi. Hein ? Voilà. Alors, une question de Tokepi. Je me doute de la réponse, mais je la pose quand même. Un chat qui se fait stériliser, c'est comme si on enlevait le premier chakra, les énergies circulent moins bien ou différemment. Peux-tu en dire plus ? Bon, quand tu dis stériliser, enfin bref, on lui coupe les glandes du premier, comme on dit, eh bien, il faut savoir qu'effectivement, ça modifie son fonctionnement. Il n'y a aucune partie qui est en rab dans un animal comme chez un humain. Dès que l'on ôte un morceau, forcément, vous supprimez quelque chose, et ça a des conséquences. Donc, effectivement, notre ami les chats, nos amis les chats, ainsi que tous les autres animaux qui se font, on va dire, couper des cocouillettes, ben, ça le fait pas. Ça le fait pas, mais c'est la même chose pour les chats. Hein. Donc, c'est encore une version réponse 3D de la science d'aujourd'hui. C'est sûr que faire enfiler des capotes aux chevaux ou à tous les animaux, ça se fait pas. Donc, c'est une méthode brutale, c'est une méthode primitive, c'est une méthode de prédateur, c'est une méthode involuante. Donc, ok, je sais qu'il y a des gens qui ont des animaux, qui les aiment beaucoup, puis qui les font castrer, ben voilà, ils les font castrer, c'est tout. Ils disent, non, moi je vais pas avoir d'emmerde à avoir des quantités de chats, ou à avoir des poulains, ou... Non, je les aime, mais on les castre. Bon, c'est un choix 3D. C'est un choix 3D. Donc après, chacun vit avec ça comme il veut, hein. Voilà. Une question de David. Peux-tu nous parler de cette technique de s'utiliser soi-même comme pendule ? Car je trouve impossible de ne pas s'auto-influencer dans le balancement. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose que, bon, j'enseigne entre guillemets à chaque fois que je vois les gens dans mes déplacements. Et tu ne peux pas t'auto-influencer. C'est-à-dire que arrivé à un moment, tu peux bien sûr physiquement dire ah, tiens, je vais bouger devant ou je vais bouger derrière. En fait, tu vas voir que si tu fais l'exercice tout à fait correctement, ton corps, on va dire, ton corps énergétique va bouger avant même que ton corps physique bouge. Or, si tu es capable de faire bouger avec ton mental ton corps énergétique, t'es très fort. Mais en fait, dans la réalité, quand on est dans l'ambiance suffisante, eh bien, on voit que même si ton corps ne bouge pas, il prend une direction. Et que bah, si tu es quand même sourd comme un pot, bah, ton corps arrive à un moment, va quand même prendre cette direction. Donc ça, c'est juste une histoire de sensibilité et d'apprentissage. Et une fois que tu as fait cet apprentissage, bah, c'est d'une facilité déconcertante. Alors, c'est comme le pendule, une fois que tu sais t'en servir, c'est d'une facilité déconcertante. Voilà, voilà, voilà. Alors, attendez, là. Voilà. Bah écoutez, il n'y a plus de questions à part celle de Fran. Peux-tu nous donner des nouvelles de Guise? Alors, Guise est réapparu dans les circuits il n'y a pas très longtemps, hein, il y a à peu près, on va dire, 2 semaines. Et effectivement, il y a en prévision donc un certain nombre de modules, hein, comme c'était prévu au départ, sauf qu'il y aura des changements dans le contenu des modules. Il y aura des changements. Mais c'est prévu effectivement qu'il reprenne du service. Il va reprendre du service. Il ne pouvait pas le faire avant pour des raisons de mission, on va dire, de sauvetage. Hein, c'est-à-dire que dans nos différentes missions, nous avons levé certains, on va dire, certains ennuis. Et généralement, ces ennuis sont quand des anges ont été capturés, c'est-à-dire que quand dans les églises, dans certaines églises, les anges ont été capturés par les abonnements et donc mis en cage, enfin bon, plein de trucs pas terribles, mais qui se retrouvent dans des situations extrêmement, on va dire, délicates, puisque, contrairement à ce que vous pouvez penser, eh bien, un ange peut, on va dire, mourir. C'est-à-dire que les entités involuantes le sucent. Et ils feront toujours en sorte qu'ils ne meurent pas. Mais ils continuent à le sucer. En fait, bref, ils ont comme comme une aiguille avec un petit tuyau, et puis ils alimentent la bouteille, quoi. Et les autres, bah, ils servent. Donc, il y a ça. Et il y a donc certains anges qui se font enlever, littéralement. Et donc, bah, ils sont plus... Parce que bon, on trouve des fois les anges emprisonnés directement dans les églises, hein, certains endroits, certains trucs, enfin bref. Et donc, ça, bah, des fois, on arrive à faire les choses localement, à les libérer. Et généralement, ils sont dans un état physique assez déplorable, énergétique, on va dire. Et donc là, il y a d'autres entités qui viennent pour les embarquer l'hosto, quoi. Et puis, il y a un autre ange qui revient pour prendre la relève. Et puis, bah, des fois, il y a des anges qui sont carrément absents. C'est-à-dire que quand nous allons dans une église et que personne ne répond, là, on se dit, ah, il n'est plus là. Et donc, c'est là qu'on alerte nos amis les dragons. Et on dit, voilà, là, il n'y a plus d'ange dans cette église-là. Et à ce moment-là, est lancé, on va dire, un avis de recherche. Et il y a donc, on va dire, des faliniers, entre guillemets. Et donc, quand nous avons arrêté d'encoder les églises, eh bien, Guise s'est tout simplement proposé à aller jouer à Sherlock Holmes et d'aller effectivement chercher les anges manquants. Donc, il est en mission, voilà. Et donc, il a terminé sa dernière mission il y a 15 jours. Voilà pourquoi il est revenu. Voyez. Donc, on s'amuse bien de notre côté, on apprend beaucoup de choses, et c'est vrai que si... Là, je me permets de rajouter ça, mais si vous saviez vraiment tout ce qui se passe, vous seriez écœuré. Écœuré. Mais bon, c'est la vie. On avance. Voilà. Bien. Donc, puisqu'il n'y a plus de questions, ben, je vais m'arrêter tout simplement là. Et je vais vous souhaiter une bonne continuation, et surtout, restez branchés par rapport aux prochains articles et vidéos à venir, car il y a un grand virage qui est en train de se faire, et ceci est bien sûr dû, entre autres, on va dire, à ce fameux solstice, éclipse, équinoxe, enfin je sais plus quoi, non, c'est l'équinoxe, une éclipse, excusez-moi, éclipse, équinoxe, bon, enfin bref, il se passe des choses, et donc nous avons reçu des consignes, on va dire, qui vous permettront d'avoir des informations plus détaillées, on va dire, et plus avancées. Mais bon, c'est sûr que ça risque de faire qu'il y ait des manifestations d'exploitants agricoles, c'est-à-dire grosso modo qu'il y ait beaucoup de détracteurs qui pointent leur nez, parce qu'effectivement, là, c'est du marteau-pilon, mais x10. Voilà. Bien, merci, au revoir, et à la prochaine.